bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Merci Laetitia, rendez-vous à midi pour d'autres infos. C'est sur Inter maintenant avec Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour Nagui.
Comme
oh, Tom, alors.
Alexis Le Rossignol, Tanguy Bassureau et notre invité
Salut.
Daniel Picouli.
Bravo.
Bonjour Daniel, soyez le bienvenu.
Bonjour, bienvenue.
C'est...
Oui,
oui,
oui. Vous êtes dans la bienvenue.
Bienvenue.
Nous allons parler de Charles de Gaulle, Nagui.
Nous allons parler du printemps proustien qui a commencé, qui se terminera le 19 mai prochain en Eure-et-Loire. Ce printemps proustien consacré à un auteur auquel vous rendez hommage dans votre prochain roman, enfin c'est aussi à votre professeur de français. Mm-hmm. On va en parler dans quelques instants, mais comment vous qui êtes un passeur de connaissances et de passions, comment vous présenteriez Proust, Marcel de son prénom, à ceux qui n'ont pas eu le courage de le lire?
Est-ce que vous en faites partie des non courageux?
Alors très sincèrement, je l'ai subi et mal vécu enfant à l'école pour le découvrir après en me disant c'est pas possible que je
passe à côté.
Ouais, que je passe à côté de du malheur de l'amour.
Voilà, exactement. Non, non, il faut pas passer à côté de Proust parce que, alors, soit on est des lecteurs et on a un jeune adolescent et on trouve dans Proust les moyens de parler des filles et de les comprendre et de les ressentir parce que Proust fait ça très très bien.
Ouais.
Ou alors après on est quelqu'un qui un jour est titillé par l'écriture et moi je suis depuis que je suis tout petit et ce gars vous donne une liberté absolue. Ce type il fait ce qu'il veut. Vous pourriez même vous dire qu'il a une petite vie de rien. Hein, c'est un garçon qui a une vie tout à fait moyenne, sans grand intérêt.
Non, non, mais on parle pas de Daniel Morin. Je voudrais qu'on parle de Proust. De savoir pourquoi il faut lire Proust.
Mais je viens de l'expliquer, mais personne ne suit. J'ai l'impression d'être en classe quand j'étais prof. J'avais un cancre de fond de classe, comme ça.
Yeah
qui est devenu un jour animateur. Et voilà ce que ça donne.
Non, non, vous avez quel âge, Daniel?
J'avais
ouais, voilà.
Non, alors. Bon, alors allons-y. Moi, je suis tombé amoureux de Proust à cause d'une fille. Bon, c'est simple, ça. C'est-à-dire que moi, j'étais un gamin de 15 ans. J'entrais pas dans une... Je connaissais pas Proust. Proust, quand j'étais môme, c'était une marque de billard. Vous vous rappelez? Ouais. Les billards Proust, c'est tout. C'est tout ce que je savais de lui. Et un jour, j'entre dans une librairie parce que je vais acheter les choses qui me préoccupaient à l'époque, une maquette d'avion en plastique pour un Spitfire MK9. C'est une maquette LR. Je faisais ça quand j'étais gosse. Je sais pas si vous avez construit des maquettes.
Évidemment.
Et j'étais donc dans cette librairie et je vois une petite gosse, genre petite crâneuse, là, le genre fatiguée d'être belle.
Petite crâneuse.
Oui, fatiguée d'être belle.
Oui, fatiguée d'être belle. Il y en a plein.
Tu vois, là, il
y en a. Non, mais
pas la seule.
Ça fatigue énormément. Il semblerait pour certaines, ça fatigue énormément.
Bon, chaque perso, ça m'épuise.
Perso, ça m'épuise.
Donc, je suis claqué d'être con.
Toi, t'as beau être fatigué, c'est pas pareil.
Donc, c'est fatigué d'être belle. Et là, et puis, elle pose, mais elle me regarde comme si j'existais pas, quoi, parce que j'étais un petit monde de cité un petit peu en vrac, toujours à cette époque-là.
Du côté
et
d'Orly.
D'Orly, voilà, j'étais Orly. Et elle pose sur la caisse son Proust, et la caissière fait « Proust, tu lis Proust !» Et bien, elle fait Proust comme ça, comme, vous avez vu, Gaulle. Vous avez
les buts.
Gaulle. Elle dit, Proust, tu lis Proust à ton âge, mais c'est formidable. Proust, c'est si difficile. Et oh, la bêcheuse, la crâneuse, au lieu de se taire, elle fait, oui, c'est vrai,
il a montré la Leïla.
Voilà, il n'y a qu'une fille, je passe. Voilà.
Je fais la voix. Ben oui, le professeur a demandé à ce qu'on lise, donc je lis.
Et qu'est-ce qu'elle dit, elle, au lieu de se taire? Elle fait, oui, notre professeur nous a dit que nous avons une très bonne classe et qu'on pouvait le lire, nous. Et elle me regarde comme ça. Nous, comme ça. Elle voulait dire quoi? Que moi, j'étais pas capable de lire Proust. J'ai posé immédiatement mon Spitfire et j'ai pris un Proust au hasard, le plus mince,
vixé.
Le temps retrouvé. C'est-à-dire, j'ai commencé par la fin. Et après, j'ai pu lâcher. J'étais dedans, je comprenais rien. J'avais l'impression qu'il fallait passer plus de temps dans le dico que dans le...
Parce que les phrases sont longues, la manière.
Mais ça quoi fait rien.
Oui,
ça...
non, mais d'accord, ok. Mais c'est comme ça. Si, ça fait quelque chose. Ça fait que des milliers d'élèves, ouais, quand même.
Ça frustre.
À l'école, voilà. À l'école, se disent, je sais pas, j'en suis pas capable. J'ai pas l'intelligence.
Où est-ce qu'on respire?
Quand j'étais dans Proust.
Donc il faut un déclic.
Oui, mais le déclic, ça peut être ça. Ça d'accord peut être quoi? Elle peut et moi je peux pas. C'est un truc puéril de petit coq.
Un truc d'égo.
Ouais. Voilà, et qu'on
alors,
continue.
Ça se passe à Illiers-Combray, c'est-à-dire que c'est à la fois la ville Illiers qui a inspiré Marcel Proust dans ses madeleines, dans ses souvenirs justement chez sa tante, et Combray qui est la ville fictive inventée par Marcel Proust, et la ville il a obtenu l'autorisation de marier la fiction et la réalité, de devenir définitivement Illy-Combré, et qui rend hommage à Marcel Proust pour ce printemps proustien. On va en parler et continuer d'en parler avec Daniel Picouli, mais d'abord des questions concernant Monsieur Picouli, pour voir si vous avez un peu bossé votre sujet. Qu'a répondu Daniel Picouli à un conseiller d'orientation après qu'il ait confié son souhait de faire des études de lettres?
Vous n'avez pas une maquette de Spitfire?
C'est un peu
M49.
Ça. C'est un peu ça.
J'ai lu Proust à 15 ans.
Vous voulez pas faire la mécanique?
Mais c'est... Exactement.
Ouais. C'est-à-dire que oui, en troisième à l'époque, on passait devant un sergent recruteur qui était maître de votre orientation.
Destin,
c'est un destin, complètement. Il a fait basse. Moi, je lui ai raconté tout, prose jusqu'à ce que j'aimais, la littérature, écrire. Et le gars, il m'a fait des propositions d'un mec qui avait bien compris mon profil, comptabilité ou construction métallique. J'ai eu le choix à 15 ans entre construction métallique et comptabilité. Voilà. Et ce gars m'a projeté dans l'économie, m'a évité et il m'a sauvé. Parce que le nombre de professeurs, après, j'ai été professeur d'économie et gestion, pas professeur de lettres, surtout pas. Et le nombre de professeurs de lettres que j'ai rencontrés qui n'avaient pas osé écrire, et parce qu'ils avaient la bibliothèque
sur
la tête. Voilà. Et moi, je n'avais pas. Moi, j'ai écrit par innocence, par bêtise.
Vous aviez les numéros de pages.
J'avais les numéros des livres de poche. Parce que même je croyais qu'il fallait lire les livres de poche par ordre de numéro quand j'étais gosse. Vous voyez le genre de culture que
dont je disposais. Retournons à l'enfance. Quand petit, Daniel mélangeait son café au lait son café et son lait pour faire son café au lait. Il tournait la cuillère pour mélanger.
Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Non.
Jusqu'à à l'envers, quoi ? Dans le vide ?
Non.
Jusqu'à ce que ça mousse ?
Non.
Jusqu'à ce que la tasse pète ?
Non.
Jusqu'à ce qu'on ne voit plus de transition dans la couleur, que le mélange soit parfait ?
Jusqu'à ce que ça fasse des bulles.
Ça a rapport avec le mélange, oui.
Il tournait pas, pour pas que ça se mélange.
Non, il dosait café et lait jusqu'à obtenir quelque chose de précis.
Une couleur particulière ?
Oui, du beige, du blanc, du jaune.
Non, une couleur particulière, laquelle ?
Marron.
Du rose.
Qu'est-ce que ça peut être à part d'un vin ?
Alors, je ne vois pas la couleur, mais j'ai la couleur de quoi ? Voilà.
La couleur de la terre.
De sa peau ?
Non, exactement.
Oui, c'est vrai qu'on nous disait qu'on était café au lait, moi, quand j'étais petite aussi.
Voilà.
À obtenir la couleur de la peau de votre main.
Absolument, je mettais ma main comme ça.
Il n'y avait pas beaucoup de café, alors ?
J'avais le sentiment, ça dépend. En été,
monsieur, je prends du café. Toi, tu as bu du lait, on est d'accord.
Pour rouge, j'ai commencé avec du jus de tomate.
Allez, on y va. Les Indiens, jus de citron. Allez, c'est fait.
Bravo, c'est raciste.
Allez, mélanger son papa et sa maman dans le bol le matin. C'est
classe. Hein,
ça a de la gueule.
C'est vrai. Ouais.
À défaut d'être le roi de l'orthographe, d'ailleurs, si je peux me permettre, on a eu la chance de lire le premier chapitre de votre futur roman. Il y a une faute d'orthographe. On en parlera.
J'espère bien, non ?
À défaut d'être le roi de l'orthographe, Daniel est le roi du
striptease.
Non. Alors, je parle de quelque chose
de
grammatical,
de
français.
De...
Exactement. Ouais.
Le roi du
synonyme.
Synonyme. Oui, je suis le roi du synonyme parce que ça a été ma seule façon de faire moins de fautes d'orthographe. Quand il y avait un mot compliqué, j'essayais de trouver un synonyme. Ça enrichit mon vocabulaire. Les cancres en orthographe sont souvent bons en vocabulaire. Voilà. Et aujourd'hui, parce que j'étais cancre, on me fait faire des dictées. J'en ai encore fait une à Saint-Louis ce week-end. Je fais les dictées les plus difficiles de France parce que je prends un texte et je le customise avec les pires difficultés de la langue française.
Ah, vous modifiez le texte?
Ah, complètement. Et je dis aux enseignants, parce que moi...
Vous prenez Mérimée et vous rajoutez des...
Mérimée, allez. Je peux customiser mes rimes. Mais parce que je dis aux enseignants, mais arrêtez d'administrer des dictées. Faites fabriquer des dictées aux gosses. Prenez un groupe, faites une dictée. Et pour une fois, c'est celui qui aura fait faire le plus de fautes à ses copains qui aura la meilleure note. Si il est capable de justifier. S'il trouve les pièges. Voilà. Mais je vous assure.
T'as fait ça, toi, Leïla, quand t'étais prof ou pas ?
De faire des textes, quoi, trop, de customiser un petit peu des choses comme ça. Oui, alors après, il faut juste pas les mettre tout le temps en difficulté. Il faut arriver à leur donner le sentiment aussi.
Le plaisir de trouver.
Ouais, qu'ils y parviennent. Et d'ailleurs, à ce sujet, on connaît tous la fameuse dictée de Pivot, qui a un peu disparu. Eh bien, elle va revenir.
Ah non, elle revient. Oui,
elle revient, ce sera génial. Le 7 juin, et j'aurai la chance de l'animer. C'est Adel Malik qui va faire la lecture du texte.
Et tu sais qu'il sera Picouli avec toi ?
Tu seras là ?
Oui.
Et ben voilà, tu viens avec moi à Tonnerre, c'est ça ? Et ben on va faire un tour ensemble.
Et c'est passé à la télé.
Oui, ça va être suivi par plus de 300 classes de
France 3, c'est sur les chaînes France 3.
Ça sera le 7 juin. Et comme ça permet préparer les troisièmes.
Qui est un vendredi.
À la dictée du brevet.
Ce sera un texte de Marcel Pagnol.
Ça sera absolument un texte.
Ça remplace Patrick Sébastien.
Un très beau texte de Pagnol, d'ailleurs.
Vendredi, je te dis, ça remplace ça plutôt.
Voilà.
Oh, Fanny Agostini.
Donc moi, je suis hyper heureuse de me dire que voilà, le retour de la dictée de Pivot, je suis dans la dictée de Pivot. Absolument.
Pourquoi enfant, Daniel Picouli, ça sera la dernière question, pourquoi enfant, il était obligé de finir son assiette?
Pour pas gâcher?
Pour moins faire la vaisselle.
Il y a l'idée.
Pour réduire la famille en
Afrique.
Il
y a l'idée aussi.
Non. Pour pas avoir à le manger le soir.
Non. C'est un rapport avec ne pas gâcher, c'est un rapport avec la vaisselle.
Ah, pour avoir moins de vaisselle à faire? Pour sa maman?
C'est pas exactement ça.
Non.
Non.
Parce que c'était plus facile à faire la vaisselle du coup quand t'avais bien fini.
Non, mais c'est un truc.
Ça, c'est sûr.
Non, mais c'est un truc génial. C'est un truc génial. Je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui vont lancer ça, même si maintenant on n'est plus dans l'espèce de surconsommation avec fini ton assiette.
Pour le dessert.
Parce que celui qui l'a finissait le moins.
À la suite.
Ah oui, voilà. Allez, je vais accepter ça. Non, ouais. C'est génial l'idée.
Voilà.
Génial.
Quand on, comme tout le monde, on mangeait dans l'assiette et on devait finir notre assiette parce qu'il fallait la retourner pour faire le dessert. C'était généralement un petit Suisse avec de la confiture.
Ouais.
Et si on voulait avoir son petit-fils à la
génial.
Il fallait. Nickel. Il n'y avait même pas à faire la vaisselle après notre passage. Quoi.
Il fallait au contraire faire la vaisselle des deux côtés.
Voilà, des deux côtés. Parce qu'il y en a qui font la vaisselle d'un côté.
Eh ben écoute, c'est quand tu fais à la main, tu laves que le côté où t'as mangé. On va toujours gagner du temps.
Moi, c'est le campeur qui parle.
On sent l'anecdote, on sent l'anecdote.
Et puis on économise de l'eau.
C'est écolo. Il n'y a rien à dire.
Ne m'en regarde pas comme ça, Daniel.
On peut aussi faire l'inverse. Si on n'aime pas trop la soupe, on commence sur la partie à l'envers.
On la retourne.
Si on aime bien le dessert, on la retourne.
Allez, parlons de cette première édition du Printemps Proustien, un événement avec toutes les disciplines. Il y a littérature, exposition, spectacle, musique,
du poids,
gastronomie. Ça a commencé le 11 mai, c'est jusqu'au 19 mai prochain. Hilaire Combray, Chartres également. Ce sont les 100 ans du prix Goncourt décerné à Marcel Proust pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs qui a été à l'initiative de ce lancement. Qu'allez-vous y faire? Une lecture justement.
Oui, j'ai fait une lecture du premier chapitre du roman que je suis en train d'écrire, qui en est déjà bien, bien, bien loin, et qui raconte justement cette fameuse rencontre avec cette jeune fille, que j'appelle Albertine, bien évidemment, et qui va provoquer.
Albertine, pour ceux qui n'ont pas lu Proust.
Voilà, c'est l'héroïne.
Voilà.
C'est l'héroïne qui.
C'est l'incontournable.
Voilà, elle est là tout au long et elle disparaît de façon tout à fait étrange dans l'histoire.
Avec un titre clin d'œil, longtemps.
Oui, longtemps je me suis couché
de bonheur en un seul mot.
Puisque c'est de bonheur, voilà.
Longtemps je suis couché à plusieurs aussi.
Oui,
c'est le début de la dictée, ça.
Oui. Ça, c'est ce qui suit, parce que chez moi, on se couchait à plusieurs. Chez nous, on se couchait tête-bêche.
Oui,
tête-bêche.
Oui,
non, mais je termine ma phrase. Je peux terminer ma phrase, oui. Au lieu de rire, là.
On était serrés à la maison.
On ne rit pas du tout.
Non, mais vous n'êtes pas seul autour de cette table.
J'espère bien.
Ça va faire ça, apparemment.
À coucher à plusieurs.
Vous étiez le grand frère ou le petit frère?
Non, moi, je suis le 11e de 13. C'est-à-dire que j'ai deux sœurs derrière, Marise et Martine, je vous les présente, ces deux petites teignes. Qui ont généré. On les embrasse. Parce que c'est grâce à elles que je suis devenu écrivain. Parce que, je sais pas si vous avez été déjà un frère, grand frère. Il faut s'occuper de ses sœurs. Tout le monde a honte de ça. Emmener ses sœurs à l'école. Deux petites sœurs comme ça, vous êtes la risée de tous vos copains. Donc,
ah bon,
j'avais qu'une. Tous les mecs. Bien évidemment.
C'est la honte.
Bien sûr, c'est la honte. C'est que tes petites sœurs, bien sûr.
Je sais pas, j'ai pas de sœurs.
Qu'est-ce que
je vois pas, qu'est-ce qu'il y a de honteux?
Qu'est-ce que tu fais le matin avec tes potes? Tu joues au foot, tu te bagarres, tu te balades pas avec deux petites sœurs, deux petites tailles avec des yeux bleus exprès pour t'embêter? Non, pas du tout. T'essaies de les perdre. Il y a tous les matins. Et les
Je trouve qu'il y a un côté, au contraire, je fais le grand, je fais le responsable.
C'est la honte.
Ok, d'accord.
Ça, c'est ce que je racontais le soir à ma mère après. Voilà.
Cet été, louez deux petites filles et baladez-vous. Vous avez
voilà.
On
voilà. a honte. Ça, c'est un papa qui parle. Il est inquiet.
Oui, exactement. Exactement.
Tu as raison. Donc, qu'est-ce que je faisais? Parce qu'il y a quand même une constatation, c'est que les filles aiment les histoires. Et donc, moi, je leur racontais chaque matin une histoire. Ils ont toujours cru que c'était une différente, mais qui était toujours la même avec des variantes, mais ça, elles écoutent pas peut-être l'émission, donc elles le savent toujours pas. Et puis après, hop, dès qu'on tourne le coin de la rue.
Vous mettez en haute estime leur intelligence.
Non, mais mes sœurs sont très intelligentes parce qu'elles ont très bien compris que ça aussi, moi j'ai compris que grâce à ça, je me débarrassais de mes frangines. Elles allaient à l'école toutes seules, donc j'ai appris un truc. Pas seulement que ça te permet de t'aider, c'est que l'écriture, ça fabrique de la liberté. Moi, c'est en racontant des histoires que j'avais la liberté de faire ce que je veux le matin. Et quand à 10 ans, vous découvrez que l'écriture, ça fabrique de la liberté, vous trouvez que c'est pas mal du tout. Et après, vous entretenez votre pouvoir à fabriquer de la liberté en écrivant, c'est tout.
D'accord. Pour en revenir à votre lecture, donc à celle que vous ferez, le texte, vous l'avez choisi ou il fallait à un moment, au milieu de tous les spectacles, de toutes les lectures organisées, se les répartir, parce qu'il y a quand même du monde. Hein.
Ouais. Non, moi je vais lire simplement le début du roman que je suis en train d'écrire. Je vais dire le premier chapitre, tout simplement. Il y a des lectures, des lettres de Proust avec son éditeur, quoi, avec Gallimard. Il y a des laissés d'Aroussin, je crois, qui lit. Il y a tout un tas de manifestations autour de Proust.
Ça sera samedi, d'ailleurs, Jean-Pierre d'Aroussin.
Voilà. Donc, c'est intéressant d'entendre Proust, parce que justement, moi, je crois que quand on entend Proust, on est moins impressionné par la phrase longue, parce qu'on sent la musique. C'est complètement étrange, mais quand on lit du Proust à voix haute, on voit très très bien les césures. Alors bien sûr, il y a les comédiens qui mettent le ton, mais on voit très bien le rythme.
Pour reprendre ce qu'a dit tout à l'heure Leïla, on respire quand ? Est-ce que la question se pose quand on est lecteur de Proust ?
Mais oui, parce que pour toute personne qui fait du footing, du sport et tout ça, il a une petite musique dans la tête, d'accord ? Qui n'est pas la même si vous grimpez un col ou si vous êtes en plat. C'est la même chose avec Proust.
C'est du cardio.
Voilà, Proust, c'est du cardio. Voilà, faut faire du cardio.
Non mais lui qui était asthmatique, c'est quand même génial d'avoir fait des phrases aussi longues.
Tous les psychos machin chose vous disent que c'est tout à fait ça. C'est un gars qui trouvait du souffle là où il n'en avait pas lui, parce qu'il était effectivement asthmatique avec des crises féroces très dures et qu'il clouait au lit. Donc il y a un rapport physique à la phrase de Proust et vous pouvez inverser ce rapport-là en vous réappropriant ce rapport physique à la phrase de Proust.
Ça veut dire que finalement la lecture de Proust ne s'improvise peut-être pas totalement autant que d'autres textes. Vous avez, pour lire un texte, est-ce que vous préparez davantage un Proust, justement parce que cette phrase longue, cette période, comme on dit, nécessite aussi que pour qu'on comprenne, on ne la coupe pas n'importe où.
Oui, mais non, c'est-à-dire que une fois que tu as pris, c'est comme cette fameuse petite chanson que tu as dans la tête, que les jours de victoire, comme disent les cyclistes, hein. C'est-à-dire qu'avec Proust, tout à coup, tu as le rythme. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu ne t'inquiètes pas de ne pas avoir de virgule. T'es pas perdu. Tu sais qu'elle va arriver. Tu sais qu'elle va arriver et que le point lui aussi. Non, il faut vous détendre par rapport à ça. C'est presque physique.
Comment vous êtes parce que votre roman rend hommage à votre professeur de français, Monsieur Taquin, le bien nommé, qui alors là vous racontez la manière dont vous êtes tombé amoureux de Proust. Enfin, c'est lui qui était apparemment un transmetteur de Proust. Il vous faisait cacher Racine dans le cartable des fois qu'il y a un inspecteur d'académie qui vienne parce que Racine était au programme. Proust n'étant pas au programme, il fallait pas que l'inspecteur sache que vous étudiez Proust. Et vous racontez que il vous a entre guillemets repéré parmi les élèves parce que le nom de votre rue était le nom du docteur à qui la dédicace était faite.
Calmette. Moi, j'habite 29 rue du docteur Calmette. Et la recherche est dédiée à Calmette, mais c'est pas le même. Et pour lui, Calmette, c'était l'homme à qui on avait dédié la recherche. Donc j'étais tout à coup effectivement un élu. Et je précisais que j'étais à Orly et que pour être élu à Orly, il fallait bourrer les urnes. Mais bon, ça c'est autre chose, parce que monsieur, on était dans une banlieue. Non, parce que c'est un hommage à mes profs. On était dans une banlieue communiste, des profs communistes, et qui voulaient le mieux pour nous.
C'est-à-dire, on était dans Orly, c'est là où les avions décollaient, et les garçons, eux, atterrissaient ce lycée, où il n'y avait pas de jeunes filles. Vous étiez en 3e B, il n'y avait pas de 3e A, et il fallait... il fallait surtout ne pas louper le cours de gym, ou enfin envoyer les filles en short.
En short à élastique. C'est la précision.
Très gentil, vous rajoutez aussi à la cellulite.
C'est-à-dire que quand on était gamin, toutes les jeunes filles qu'on ne pouvait pas avoir, on les dénigrait, monsieur. C'est des raisins verts. C'est tout simplement parce qu'elles ne nous regardaient même pas. Alors il fallait bien qu'on trouve quelque chose.
Par contre, elles nous écoutent ce matin.
Elles sont pas contentes. Elles
sont pas contentes. Voilà. Donc, non, mais c'est vrai que ce cours de gymnastique, c'est vrai, ils nous avaient séparés par une espèce de no man's land. Et ce no man's land a plutôt entretenu le désir qu'autre chose. C'est-à-dire, les filles, on les rêvait. Et Et c'est ce qui se passe dans Proust. En Proust, les rêves, les filles. Et nous, on était dans notre cité à les rêver parce que il y avait entre elle et nous un terrain vague.
Alors,
et
comment, les filles, c'était vague. Comment rendre hommage à Proust avec des lectures, j'ai bien compris, mais également de la musique. Il y a Anne Kefelec, qui vont faire un concert lecture exceptionnel autour de La Belle Époque demain, samedi à 18h.
Parce que c'est indémêlable, la musique et la peinture chez Proust. Il y a la fameuse petite sonate de Vinteuil qui est l'hymne national de l'amour. C'est-à-dire c'est cette façon qu'on peut avoir, et tout le monde l'a vu dans Casablanca. Dans Casablanca, il y a une chanson, il y a un air au piano qui est, dès qu'il est amorcé, on pense aux deux amoureux et à leur amour et à leur rencontre à Paris. Oui. Tous les amours, presque tous j'espère, contiennent ou ont comme ça un air où on passe cet air-là, on était en train de s'engueuler, on passe ça et ça va tout de suite mieux.
Et c'est quoi pour vous ? C'est quoi votre musique associée à l'amour ?
Non, c'est moi l'hymne à l'amour est quelque chose de définitif pour moi parce que c'est Marcel Cerdan, c'est l'amour entre Édith Piaf et Marcel Cerdan.
Oui, ça finit mal. Enfin, on finit en larmes l'hymne à l'amour.
On est en larmes.
C'est-à-dire que l'amour vous fait pleurer, vous ?
Non, oui, parce que on a envie d'être aimé comme ça, même si ça se termine mal. C'est-à-dire que c'est la même chose dans Proust. On a envie d'être aimé.
Ou dans Roméo et Juliette aussi.
C'est que Roméo était un abruti, il a pas vu qu'elle était pas vraiment morte. Donc il faut quand même pas, on va quand même pas faire l'apologie de ce garçon.
Ça, c'est le problème des garçons, ça.
c'est le problème des garçons. Ils espèrent tellement qu'elle soit morte qu'ils les voient partout. Oui, c'est vrai.
Le printemps proustien, se déroule jusqu'au 19 mai en Eure-et-Loire. Il y a Combray, donc avec beaucoup, il y a un casting de dingue en tout cas.
Oui, parce que c'est un printemps Goncourt aussi. C'est le prétexte, c'est vraiment.
Mathieu aussi.
Voilà, ce 19 décembre 1919, je crois, où Proust a eu le Goncourt, ce qui a été un événement extrêmement important, parce qu'il l'a eu en plus contre Roland d'Orgelès, les Croix de Bois.
Guillaume Gallienne, pardon, avait ouvert le 11 mai avec ses lectures et ses entretiens, parce que c'est lecture et entretien. Oui, après, ouais. Il y a échange. Camille Cotin, Marie-Christine Barrault, Irène Frein, vous, Jean Rouault, Jean-Pierre Darroussin, ouais. Frédéric Mitterrand, Thibaut de Montalembert et Xavier Gallet, bref.
Et Enthoven, le Raphaël sera là. Ils ont fait un dictionnaire amoureux qui est vraiment la référence actuellement pour les Proustiens. Quoi.
Tom Villa, ce premier printemps proustien est déjà un événement.
Oui, ça sent bon. Juste, est-ce qu'il ne serait pas un peu surévalué, Marcel Proust ? Je pose la question, je n'ai pas la réponse, mais j'ai des éléments en revanche. Non, mais on regarde, il n'est pas rentré à l'Académie française, il n'y a pas de station de métro à son nom, il n'a jamais été invité chez Drucker, surévalué parce que on dit c'est un génie, mais sa mère elle le surnommait quand même, et c'est vrai, hein, mon petit bonnet et mon petit nigaud. Alors le génie, est-ce qu'il ne prendrait pas un petit coup dans l'aile, parce que quand ta mère te surnomme bonnet, non seulement t'es un idiot, mais en plus elle a bien eu le temps de mûrir sa réflexion et de choisir l'adjectif qui te correspond le mieux. Non mais c'est vrai, ses œuvres majeures sont quand même À la recherche du temps perdu et Du côté de chez Swann. Ça fait quand même film Indiana Jones, c'est une chanson de Dave. C'est pas et puis surtout qu'est-ce qu'on tiendra de lui?
C'est vrai.
Le questionnaire de Proust, qui a un truc pompé sur un jeu anglais qui s'appelle Confession, parce que je parle aussi anglais. Donc notre petite manie de pomper tout ce qui parle anglais date pas d'hier, hein, hashtag copy comics. Et puis le questionnaire de Proust, pardon, mais de là à dire que Proust aurait pu écrire dans Biba ou Femme actuelle, j'irai pas là, mais on n'est pas loin. Deux triangles, trois losanges, deux carrés, bravo, vous êtes forte et soumise à la fois. Non mais ça va. Vous avez déjà lu le questionnaire de Proust avec ses propres réponses à lui ou pas? Quel escroc, la moitié du temps il répond pas ou il répond à côté. Mon rêve de bonheur, j'ai peur qu'il ne soit pas assez élevé. Je n'ose pas le dire, j'ai peur de le détruire en le disant. On dirait une adolescente qui vient d'écouter Louane. Non mais c'est vrai. Le pays où je désirais vivre, celui où certaines choses que je voudrais se réaliseraient, comme par enchantement, et où les tendresses seraient toujours partagées. Non mais la question n'est pas compliquée, c'est un pays. On te demande un pays, franchement. Allez pas au resto avec Proust.
Tu te demandes un pays.
Non mais, oui c'est ça, tu t'auto-demandes un pays. Au resto, Proust, non, je voudrais manger quelque chose de doux et de fort à la fois, quelque chose qui m'emplit de joie, ça me rend trop lourd physiquement. Allez, un café, une tarte dans la gueule pour Marcel. Voilà. Ma devise favorite, j'aurais trop peur qu'elle me porte malheur. Mais pose pas la question, et il termine par mon état d'esprit actuel, l'ennui d'avoir pensé à moi pour répondre à toutes ces questions. Mais oui, mais c'est le principe, tu fais un truc pour mieux connaître les gens et tu réponds à côté. Mais si, le seul truc rock'n'roll à la limite qu'il a fait, c'est à la suite d'une critique acerbe sur son livre Les plaisirs et les jours dans le journal de Jean Lorrain. Marcel Proust a provoqué en duel Jean Lorrain pour qu'il règle leur compte.
Tout ça est vrai.
Oui, c'est vrai, bien sûr. Alors, encore une fois, surévalué, parce qu'au final, Proust, c'est ni plus ni un que Boubou Akaris, les deux rappeurs qu'on les traite d'animaux quand ils vont à Orly. L'autre, c'est rendez-vous dans un bois et on se flingue chacun et on voit ce qui se passe. Non, mais c'est vrai, c'est. Ouais. Et après, à sa décharge, Laurent avait quand même révélé son homosexualité, donc voilà. Je vous rappelle qu'aujourd'hui encore, c'est compliqué. Alors, il y a 100 ans, j'en parle même pas. Donc, Marcel Proust, un peu surévalué, mais courageux malgré tout. Pour ce qui se passe, il y a le bac français qui est dans un mois pile poil. Donc, tous ceux qui nous écoutent, tout ce que je vous ai dit est vrai. En revanche, je vous déconseille de m'écouter parce que j'aimerais pas avoir des redoublements sur la conscience. Allez, bonne
journée. Merci, Tabila. Daniel Piccoli, dans votre roman, vous parlez du kit proustien. Cinq éléments clés de ce kit.
Oui, la recherche, d'abord, c'est une œuvre.
3000 pages.
Ouais, 3000 pages, donc ça peut vous arrêter tout de suite. Je sais pas, il y a des chiffres qu'on met comme ça, rien que pour que les gens s'arrêtent de lire.
On ne dit pas le titre en intégralité.
Bien évidemment. Et puis, il y a quand même 6 volumes, dont 2 posthumes, on pourra en parler. Quand j'étais môme, j'ai dit, mais comment un mec fait pour écrire des romans posthumes de son vivant. Ça c'était. Il y a une héroïne. Il y a bien sûr Albertine.
Il y a la fleur.
Il y a une Madeleine.
Il y a une Madeleine
qui était une biscotte. Oui, c'était une biscotte. Mais moi je m'étais dit.
Chez tante Léonie.
Voilà. Si un mec qui a compris, qui irait plus loin avec une Madeleine qu'avec une biscotte en littérature, il a tout compris. Je me suis dit dans ce qui s'appelle la transformation, parce qu'il transforme tout, hein, Proust, avec deux hommes, il vous faisait une femme, avec trois hommes.
La biscotte, c'est pas assez romantique, il fallait quelque chose de plus doux.
J'essaie de m'imaginer ce que serait devenu Proust
avec une biscotte et pas une biscotte.
Que cette espèce de mémoire instantanée qui nous revient.
Puis l'odeur de la biscotte.
Ça, avec une biscotte.
Faut être aiguisé, quand même.
C'est dans la cage aux folles, ça marche.
Et Cattleya?
Cattleya, alors faire l'amour. C'est un terme qu'a utilisé Proust, Swann, dans le fiacre avec Odette.
Il ne disait pas faire l'amour.
Il disait faire Cattleya. Cattleya, il l'écrit bien sûr, parce que comme c'est Proust, il l'écrit pas exactement pareil. Il fait une faute d'orthographe à Cattleya.
Ça m'a
beaucoup plu, parce que je me suis dit, et si Proust n'avait pas connu les Cattleya, comment on dirait faire l'amour chez Proust et comment on dirait faire l'amour chez les autres. Alors, moi, j'ai une solution, c'est-à-dire faire clochette, mais ça n'a rien à voir. Il faut lire l'histoire pour comprendre.
Très bien. Voici Alexis Le Rossignol.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bon, vous le savez, moi, j'ai une grande passion pour la cuisine.
Ouais.
Cuisiner, c'est reposant, ça vide la tête. J'en parlais dans un rêve érotique avec Laurent Mariotte l'autre jour. Il me disait, Alexis, je sais qu'on s'est croisés dans une partie fine, mais depuis que j'ai trouvé ma voie, je m'éclate. Je vais t'avouer un truc, je prends même plus de plaisir à cuisiner qu'à manger. Je lui ai dit, je vais t'avouer un truc aussi, je regarde Terre 7 et ça m'étonne pas. Non, je déconne, il est super, Laurent. Ma mère l'adore. Puis je veux pas me brouiller avec elle, question héritage et tout, on est trop près du... Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que c'est facile la cuisine. On est là à nous émerveiller devant Top Chef. Oh là là, c'est beau. Oh là là, c'est gourmand. Oh là là, c'est croquant. Mais c'est pas compliqué. Pour la fraîcheur, tu mets de la menthe. Pour le peps, tu mets du citron. Pour le croquant, 2 tranches de concombre ou un radis. Et le tour est joué. Le reste, c'est juste des beaux effets de caméra. Bien filmé, 3 petits pois et une carotte, ça fait envie. La télé, ça embellit tout, il faut le savoir. Moi, la première fois que j'ai vu Nagui en vrai, j'ai retenu mes larmes, quoi. Et vous avez vu le garde-manger dans Top Chef?
Ouais.
Dans la chambre froide, t'as le PIB du Suriname en produits frais.
C'est énorme.
Les meilleures viandes, les meilleurs poissons, des fruits qui poussent que dans 3-4 pays du monde, et surtout, des fleurs comestibles. Les fleurs comestibles, c'est le vernis à ongles des plats de chef. Tu vois, visuellement, tu peux pas rater un plat avec des fleurs comestibles. Tu mets une vache qui rit et un boursin sur une petite planche, tu rajoutes une fleur comestible et t'as un plateau de fromage. Tu vois. Mais donne-leur 200 grammes de pâte, un demi-avocat et une boîte de sardines. S'il y a pas de fleurs, ils savent plus quoi faire, les chefs. Tu vois. Après, Top Chef, c'est bien quand même, parce qu'il y a un super jury. Top Chef, c'est The Voice, mais en plus crédible. Bon, non, mais Julien Clerc, ça va encore, mais Jennifer, c'est pas la calasse, on est d'accord. Dans les années 70, Jennifer, au mieux, elle aurait fait Claudette, tu vois.
Que... méchant.
Mais si, il m'en a plus de grand chose.
On a une Claudette qui vient d'Orly,
elle t'a rien dire.
Fait. Oui, en plus, c'est trop petit. Enfin, on a le droit de faire de l'humour ou merde.
Oui.
Non, il n'y en a plus de grande chanteuse française. Zaz rend hommage à Edith Piaf et personne dit rien. Le respect des morts, tout le monde s'en fout dans ce pays, quoi. Tu vois. Il y a Angèle qui marche bien éventuellement en ce moment, mais si elle fait la carrière de Barbara en portant des combinaisons de ski sur la plage, moi je veux bien faire des chroniques en string panthère sur les genoux de Daniel, tu vois. Bref, je m'égare.
Philippe Catherine l'a déjà fait.
C'est vrai?
Si je vous parle de cuisine ce matin, c'est parce que le week-end dernier, je suis allé au festival Taste of Paris.
Ah ouais.
Qu'est-ce que c'est? Au Grand Palais. Ah, voilà. The Taste of Paris, c'est quoi, me direz-vous? Non, vous me le dites pas. Bon, tant pis.
Vas-y, c'est quoi?
Ouais, mais enfin, j'avais écrit ça, moi. Donc, j'ai un texte à suivre.
C'est un grand événement au Grand Palais où il y a plein de chefs.
Le Taste of Paris, voilà, c'est une rencontre culinaire avec des grands chefs au Grand Palais. En gros, c'est une kermesse annuelle de la gastronomie où on peut goûter des créations de chefs, voilà, pour un prix dérisoire. Mm. Bon, alors, le prix dérisoire, c'est selon les organisateurs. Parce que ça coûte quand même 20 € l'entrée. Et 12 euros la dégustation. Et le mot dégustation est bien choisi, hein, parce que sur l'échelle d'une assiette bien servie, on est quand même assez bas. C'est-à-dire que moi, je crois que les riches, quand ils vont au resto, ils n'ont pas vraiment faim, en fait. À mon avis, ils mangent avant, tu vois. Et ils viennent pas manger, ils viennent juste goûter. D'ailleurs, les serveurs, ils te disent pas bon appétit, ils te disent bonne dégustation. Ils pourraient dire bonne frustration, ça ferait le même effet, tu vois. En plus, comme cette saison, ils avaient tous préparé des asperges. Alors, moi, j'en avais bouffé chez ma mère la veille, mais bon, il y en avait même un qui avait fait des asperges blanches, baigné dans une émulsion d'asperges vertes. Des asperges aux asperges, en fait. Quoi. Génie. Et après, on est montré du doigt quand on prend frites et purées à la cantine. Tu vois.
C'est génial.
Et ce qui m'a surpris là-bas, c'est pas tant le contenu des assiettes, c'est plutôt le côté star des chefs. Maintenant, les chefs, c'est des vrais stars. Surtout la nouvelle génération. Alors, pour distinguer les chefs à l'ancienne des nouveaux chefs, c'est assez simple. Les anciens, ils ont de la bedaine et les nouveaux, ils ont des tatouages, tu vois. T'en as certains, tu te demandes si c'est pas des joueurs de foot en reconversion. Tu vois. Et les nouveaux chefs, ils cuisinent pas. Ils prennent des selfies à longueur de temps. J'en ai vu un qui en prenait avec tout le monde, un vrai maniaque. Je lui ai tapé sur l'épaule, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fous là, Nagui? Il s'est retourné, c'était Hélène Darroze. Merde. Je lui ai dit, excusez-moi, Dodo, vous faites la même taille. Enfin, bref. Mais j'étais content de l'avoir quand même parce que dans le monde de la gastronomie, on voit beaucoup d'hommes, essentiellement des hommes. C'est très masculin. Les femmes sont sous-représentées et ça, c'est pas normal, tu vois. Donc je le dis, hein. C'est triste à dire, mais quand il s'agit de faire la popote pour 3-4 personnes à la maison, elles sont là. Mais quand il faut se professionnaliser un peu, il n'y a plus personne. Hein. Voilà. Allez, bon appétit, messieurs. N'oubliez pas les fleurs comestibles, c'est le secret.
Merci,
la bande originale.
Et pour voir Alexis Le Rossignol sur scène, c'est tous les samedis à 17h au Point Virgule. Et en plus, on aura la chance de te retrouver au Festival d'Avignon du 5 au 14 juillet.
Tout à fait, merci.
Organisé à l'initiative du Conseil départemental d'Eure-et-Loire, sous le haut patronage du Président de la République et de l'Académie Goncourt, donc il y aura pendant ce week-end, samedi, dimanche 18 et 19 mai, le salon littéraire entièrement dédié, vous l'avez dit, à la célébration de Marcel Proust et de la Recherche du Temps Perdu, prix Goncourt. Et de la Belle Époque est composée aussi d'un plateau d'exception. Il y a 60 personnes et personnalités présentes. On a dit qu'il y aurait de la musique. Il y en a aussi beaucoup dans votre vie, Daniel Piccoli. On va d'ailleurs écouter les musiques qui devaient résonner à la maison dans la fin des années 40.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Il y avait du Piaf à la maison, c'est ça?
Ah oui, oui, il y avait du Piaf. Parce que Marcel Cerdan, j'ai mué un peu. Quand Marcel Cerdan gagne contre Tonizel, maman est enceinte de moi. Et j'ai toujours eu le sentiment que c'était les premières chansons que j'avais entendues dans le ventre de ma mère, c'était Edith Piaf. Et un jour, des gosses ont fait une on fait une pièce où ils ont représenté, ça s'appelait Dans la tête de Daniel Piccoli, et ils font ma mère avec son landau et mon père qui se rapproche comme ça sur scène et qui se rend compte sur cette musique-là. Là, je pleure. Mmh. Et j'ai pas honte. Je pleure.
Non, mais encore maintenant, vous êtes ému d'entendre La Vie en Rose.
Oui, oui, bien sûr. Non, mais là, je le suis parce que je les vois tous les deux. C'est l'image d'un amour qui est quasiment inatteignable après même qu'on est un homme. C'est l'amour de cet homme qui, un jour à 21 ans, se rend pas compte qu'il épouse une femme qui a déjà 9 enfants. Il le sait même pas. Il les prend. Et il lui en fait 4 autres. Et on va jusqu'à 13. Un gars qui a 21 ans est capable de faire ça. Quand j'ai eu 21 ans, le jour où j'ai eu 21 ans, je me suis dit, Daniel, aujourd'hui, tu épouses une femme qui a 7 ans de plus que toi et a 9 enfants. Je me suis recouché, hein. Tout le monde se recouche. On se sent pas.
Maman, c'est Paulette. Papa, c'est Roger. Oui. Et il est chaudronnier à Air France, ce qui explique Orly, j'imagine. Ce modèle comme ça, indépassable de l'amour parental. Est-ce que c'est pas difficile ensuite de se projeter dans sa vie d'adulte et de se dire, moi aussi, je vais être en couple. Moi aussi, je vais trouver cet amour. Est-ce que c'est possible de le trouver quand on a...
Bien sûr, parce que justement, la Proust va vous aider. Si vous voulez être Proust, il faut être né en 1871, mort en 1922, est homosexuel, asthmatique et tout ça, vous le serez jamais. Si vous voulez être Paulette et Roger, si vous voulez être Roger de Paulette, il faut être né en 1920 à Tarbes, être un métis chaudronnier, ayant perdu ses parents. Donc j'ai pas l'histoire de mes parents, et c'est idiot de dire que c'est Proust qui vous apprend ça.
Mais est-ce que son histoire doit être forcément triste ou remplie d'embûches
Oui. Non, parce qu'ils avaient une faculté formidable. Ma mère, comme mon père, étaient d'énormes menteurs. C'est-à-dire qu'ils vous transformaient la vie en temps réel. Ils faisaient un roman de la vie en temps réel.
C'est des conteurs.
C'est des conteurs, mais c'est extraordinaire. Je l'ai raconté dans le champ de personne quand je découvre la blessure dans le dos de mon père, au lieu de me faire tout un discours sur le fait qu'il était à l'ensénatorium, qu'on lui a retiré un poumon, que bon, voilà. C'est-à-dire de me projeter dans 10 ans d'analyse plus tard. Il me dit, tu vois ça? C'est une griffe de tigre. Et moi, pendant toute la journée, je suis le fils du gars qui a chassé le tigre à dos d'éléphant avec le Maharaja de Buru Buru. Et tous les copains à la récré, ils me regardent comme un dieu. Tout ça pour un mensonge. Quand vous commencez votre vie de star avec un mensonge, vous trouvez que le mensonge, c'est pas mal.
C'est la fabrique d'un écrivain, en fait.
Oui. Mais en plus, même Proust, on revient à lui, parce que c'est tout ça que j'ai appris en lui. Lui, il dit, la vérité n'est pas vraisemblable. Et il dit ça, et il travaille toute sa vie à faire de ses petites vies quelque chose de somptueux. Et je trouve qu'on est tous en charge de ça, que ce soit pour nos mômes. Qu'est-ce qu'on fait en leur racontant des histoires? On les protège, ils auront bien le temps d'apprendre que le monde n'est pas aussi peut-être beau que ce qu'on leur raconte.
On commence même par le Père Noël et la petite souris.
Voilà, absolument. Et on a raison de le faire. Et tous les gens qui se croient très malins parce que je vais pas raconter des conneries comme ça. Ben non, ils font pas leur boulot de protection de parents.
Daniel, il y a mensonge et mensonge.
Oui. Voilà. Mais après c'est.
J'aime bien distinguer quand même. Raconter des histoires et mentir, c'est peut-être pas la même.
Mais c'est une petite frontière éthique et personnelle. C'est-à-dire que chacun a affaire avec ça.
Le mensonge peut faire du mal aussi.
Mais bien évidemment. Mais la vérité aussi. La vérité peut faire du mal. La vérité peut faire du mal. Donc on est en charge toujours, en permanence, toute sa vie, d'être sur ce fil très étroit qui est, entre la vérité et ce qui apparaîtrait pas comme la vérité. Est-ce que je suis en train de mentir ou est-ce que je suis en train de protéger ou d'améliorer? Je sais pas. Et je me pose pas cette question. Et quand j'écris, encore moins, parce que je suis le seul à connaître la vérité.
En 1973, vous écoutiez...
Ex-fan de 60s, petite baby doll. Comme tu dansais bien le rock and roll.
Vous étiez amoureux de Jane Birkin?
J'étais impressionné par Serge Gainsbourg.
D'accord.
Serge Gainsbourg, quand je l'ai vu pour la première fois à la télé, c'était pour le Poinçonneur des Lilas. Un gars qui avait les oreilles comme ça, je lui dis, un gars qui écrit comme ça,
tête de chou-fleur. Ouais,
voilà, mais quand on a ce talent-là, on peut avoir une tête de chou-fleur. Et de toute façon, les plus belles filles, dont Jane Birkin, tomberont. Et ça, c'est un apprentissage, c'est une vérité.
Parce que les filles ne tombent pas amoureuses d'un physique, mais d'un talent, d'une émotion,
D'un rapport, de quelqu'un qui. Et ça, je trouve que quand on est gamin, moi j'étais.
C'est rassurant.
C'est rassurant parce que moi j'étais tout petit quand j'étais en troisième, j'étais en dessous du niveau de la mer, quoi. J'avais pas encore. J'ai pris des centimètres l'été à venir, parce qu'après je suis parti en Suède, je sais pas pourquoi les Suédoises m'ont fait grandir de 7 cm, je vais dire en taille, donc ça je sais pas pourquoi,
mais
c'est bien graphique pour une fois que je mens pas, et voilà les réactions, bravo, belle mentalité.
On est en 73, Daniel.
Oui, parce qu'à 17 cm, ça vaut pas la peine de s'arrêter.
Vous arrêtez votre doctorat et vous commencez à travailler, il vous faut travailler à ce moment-là.
Ben j'arrête mon doctorat parce que mon père meurt. Il faut aller bosser. J'étais en doctorat de fiscalité. Je manque pas à la fiscalité.
Il faut aller bosser, pardon, pour nourrir la famille, pour ne pas être un boulet, une charge pour maman.
Non. Chez nous, tout le monde travaillait. C'est-à-dire qu'il y avait la télévision, c'était notre espèce de caisse d'épargne. Quand quelqu'un, on gagnait de l'argent, on était payé. On posait notre paye sur la télé. Surtout, maman se débrouillait.
Pot commun.
Ouais, pot commun. Et ça a toujours été ça. Moi, si j'ai pu faire les études que j'ai faites, c'est parce que je suis le numéro 11. Et que les choses se sont améliorées.
Oui.
Moi, j'ai tous mes frangins qui ont précédé. Des fois, je les projette dans le numéro 11. Si
Guy avait été numéro 11, si Serge avait été, si Monique avait été numéro 11, et ils auraient eu le destin que j'ai eu. Et ça, faut pas que je l'oublie. Ouais. Et je ne l'oublie jamais.
Ouais. Et la numéro 13, elle a jamais bossé?
La numéro 13, Martine a été assez triste, elle était, voilà. Non, elle a bossé, et au contraire, on bossait très très tôt. On bossait très tôt, on bossait à 14, 15 ans. Mais enfin, ce qu'on appelait des petits boulots. C'est-à-dire, mais c'est une époque où tu allais au marché, tu disais, un gars, est-ce que je peux aider?
Non, et puis c'est l'apprentissage de la vie aussi. Ouais. Et puis c'est d'apprendre la valeur de l'argent, de se rendre compte de quelle fatigue il faut pour avoir quelle somme.
Ouais, et puis d'être là à l'heure. Par exemple, d'être là à l'heure quand on est embauché.
Quand on arrive au moment où on est embauché, on est déjà en retard.
Ouais, absolument. Voilà. Donc c'est tout ça qu'on apprend.
Vous devenez maître auxiliaire.
Oui, je deviens maître auxiliaire à l'époque.
Dans des lycées.
On donnait un coup de téléphone avec le diplôme que j'avais. J'étais dans la classe deux jours après avec la meilleure formation pédagogique que j'ai jamais eue. C'est le surgé qui m'a dit vous avez déjà enseigné? Non. Ne le dites surtout pas aux élèves. C'était ma formation pédagogique. Je suis rentré dans la classe, j'ai dit, vous êtes ma première classe, mais je ne supporterai aucun élève me ressemblant. Voilà, c'est tout. Et puis on a fait 25 ans comme ça.
C'était ça. Ça rapproche. Voilà. 1991.
Je vivais à l'écart de la place publique, serein, contemplatif, ténébreux, bucolique, refusant d'acquitter la rançon de la gloire sur mon brin de laurier. Je dormais comme un loir. Les gens de bon conseil ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue, j'avais des comptes à rendre et que sous peine de choir, dans un oubli complet, je devais mettre au grand jour tous mes petits secrets.
Trompette de la renommée. De la renommée.
Voilà, plusieurs choses d'abord, parce que on entre dans la carrière littéraire, on sait que ça, enfin en tout cas moi c'est arrivé très très brusquement, le chant de personne, ça a explosé quoi. Et on est confronté à ça, à la renommée. Qu'est-ce qu'on veut en écrivant? Est-ce qu'on veut être écrivain? Est-ce qu'on veut être une star? Ou on veut écrire? Et est-ce que ce à quoi on va s'interdire d'aller? C'est-à-dire que dans les trompettes de la renommée, il dit en gros, est-ce que je dois aller mettre sur la table mes choses pour qu'on s'intéresse à moi? Non, on doit écrire comme des chansons comme il fait. Brassens, aujourd'hui, je me demande si on passera à la radio cette chanson-là.
Ah, moi, je suis sûr que si.
Ouais, ouais, bah tant mieux alors.
Si, si. Peut-être pas le rythme serait peut-être différent, la mélodie serait peut-être différente dans la composition parce qu'il vivrait avec son temps et sa période, mais le texte.
Ah oui, le texte, absolument. Voilà.
Il est très, très, très moderne, au contraire, toujours.
Il est formidablement
après,
moderne.
Les mots seraient peut-être différents, la poésie serait différente.
La radio, elle est un peu longue.
Oui, elle est peut-être un peu longue, mais là, c'est pour dire qu'à cette époque-là, on écoutait aussi bien les Beatles, les Rolling Stones, Otis Redding, que Brel, Brassens, Ferret. C'était brassé dans la même chaîne. C'est de ça dont moi je suis nourri. Et c'est un hommage à ces textes-là. Et puis il y a une trivialité sans vulgarité, ça c'est la classe.
Et avant le chant de personne qui a été un grand succès de librairie, qui vous a fait vraiment connaître, en 91, votre premier manuscrit, c'est La Lumière des Fous, qui était hyper noir, l'histoire d'une adolescente qui est enceinte, d'un professeur qui avorte seul dans les toilettes, pendant que son frère se venge sur la femme. Bon, bref, c'est hyper noir. C'est un texte que vous avez fait lire à au proviseur de l'établissement où vous travaillez, qu'il a fait lire à Daniel Pénac, et qui s'est dit, je le prends.
Et d'abord, il y a le proviseur qui a dit, c'était un principal, il a dit, Monsieur Piccoli, je ne pouvais pas imaginer qu'un être aussi solaire que vous puisse écrire des choses aussi noires. Je suis un peu dans le prolongement de la mort de mon père. Je veux tuer tout le monde. En gros, je suis un de ces adolescents qui mord. Pas parce qu'ils trouvent ça injuste. Et je me suis dit, bon, moi, au lieu de tuer les gens, essaie donc de les tuer dans un livre. Et en plus, c'est une histoire parfaitement vraie. C'est-à-dire que dans le lycée où j'étais, il y a une copine qui sort de classe, elle revient quelques temps après, un peu blafarde, et elle a avorté dans les toilettes. Et voilà. Et en même temps, pour un mec, je veux dire tout simplement, il y a là-dedans un courage qui moi, me dépasse. Et à cet âge-là, je me suis dit...
De sa part,
vous voyez. Oui, de sa part, d'accord. Bien sûr, de sa part. Ouais, c'est un truc pour moi insensé.
Voilà. Ça vous fait quoi quand vous voyez des images aux États-Unis de... jeunes filles qui vont dans des cliniques pour se faire avorter et qui ont une espèce de marche de la honte,
bien sûr,
avec des gens extrêmement agressifs,
bien sûr,
des extrémistes.
Ils viennent de voter en Alabama une loi. Bon, ça va remonter jusqu'à la Cour suprême, mais moi, les États-Unis, je n'ai pas de fascination. Je suis allé aux États-Unis que pour le discours de Obama quand il est devenu président. C'est ce que je m'étais dit. Moi, je ne pouvais pas, quand
quand j'étais adolescent, aller dans un pays où il fallait que je me pose la question de si je pouvais entrer là ou pas là, si j'étais loin ou pas.
Mais pensez-vous qu'il y ait un recul des mentalités, c'est pas que aux États-Unis, parce
Il y a une
tendance planétaire quand même.
Bien sûr, il y a une tendance où on a l'impression qu'on se retrouve comme on était gosse, qu'on devait entrer dans un club et qu'il y avait un videur. Et moi, quand j'étais adolescent, je voulais pas aller en boîte parce que je me refusais à l'idée que quelqu'un pouvait m'autoriser ou non. Parce que je savais que ça allait provoquer chez moi quelque chose de très violent.
Un physionomiste. Qui ne juge qu'à la gueule.
Ouais, qui ne juge qu'à la gueule. Et ça, c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a de plus en plus de physionomistes. De plus en plus de gens qui vous jugent à la gueule.
C'est du délit de faciès, hein.
Mais je veux dire,
parce que c'est un établissement privé, mais.
Mais en même temps,
Légalement, dès l'instant où un établissement a une enseigne et où il y a une entrée avec marqué entrée payante à tel prix, ils ont beau écrire club privé pour se protéger, si vous voulez rentrer dans un lieu où on vous dit non, vous ne pouvez pas rentrer, vous appelez la police et alors le seul truc qu'il y a, c'est que l'ambiance sera pas exactement la même. Vous appelez la police et vous faites constater le fait que vous ne pouvez pas rentrer dans tel ou tel établissement et ils seront condamnés, ils auront des amendes, mais ce n'est pas légal, club privé ou pas club privé.
Non mais je veux dire, cette idée de physionomie, c'est partout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en position de te dire non, ce soit pour un projet, ce soit pour un texte, ce soit pour quoi que ce soit. Et ces gens-là peuvent le faire avec un grand sourire. Mais j'ai une émission d'ailleurs que je vais tourner tout à l'heure à Franço, chaîne que l'on supprime. Et moi, je suis dans cette situation de me poser la question qu'est-ce qui va se passer pour les gens dont je parle dans mes émissions, pour les auteurs qui sont parfois pour la première
fois. Ces émissions sont censées se retrouver sur antennes
Absolument.
Des autres chaînes du service public. D'ailleurs, la manière dont c'est expliqué en disant pourquoi mettre dans une espèce de ghetto tout ce qui vient d'outre-mer sur une chaîne qui concerne Outre-mer et pourquoi ça ne serait pas dans des chaînes entre guillemets généralistes.
C'est recevable parce que ça
il faut de la place.
Voilà. Et puis parce que ça a donné aussi un prétexte pour les gens qui ne souhaitaient pas ou ne voulaient pas ou n'avaient pas d'appétence particulière pour ce type de programme ou de personne, de leur dire, vous avez votre chaîne.
Ouais,
et c'est ça qui est dramatique. Ouais.
Jacques Drillon nous a rejoint. Bonjour. Jacques, vous êtes critique musical, pianiste, écrivain, linguistique, auteur de plus d'une vingtaine de livres. Les deux derniers édités en 2018, La musique pour paradis chez Bûcher et Chastel et Cadence, essai autobiographique paru chez Gallimard. On a beaucoup parlé de Proust. D'ailleurs, vous nous avez gentiment écouté. Daniel Piccoli, a-t-il bien ou mal parlé de Proust? Vous qui êtes proustien.
Oh, je vais pas dire qu'il en a mal parlé. Alors qu'il est là.
Non, un peu de courage, allons.
Allez, duel. Je trouve justement qu'il ne faut tout de même pas cacher que Marcel Proust est un écrivain assez difficile.
Ah oui.
Voilà. Et que si on en parle autant comme une chose qu'on a faite ou pas faite, qu'on a réussi à faire, qu'on a faite plusieurs fois, même éventuellement, c'est quand même pas pour rien. C'est relativement
difficile. Ça vous a pas choqué quand je vous ai dit qu'à l'école j'avais eu du mal et qu'il a fallu attendre plus tard?
Bien sûr
en disant,
que non. C'est...
Mais enfin, je comprends ce qui.
Mais même adulte.
Sans doute que tu as eu du mal.
il arrive très fréquemment que quelque chose d'excellent soit difficile. C'est même peut-être une règle. C'est un petit peu difficile. Mais il faut aussi comprendre pourquoi c'est difficile. Cette histoire de phrases longues qui est quand même l'obstacle, parce que le roman est très long, mais ça c'est pas un obstacle une fois qu'on est dedans. Ouais. Pourquoi la phrase longue est un obstacle? Parce que Proust a ça de très particulier et de très très rare, c'est qu'il a inventé une langue qui correspondait à ce qu'il voulait dire, qui correspondait exactement à sa pensée. Or, il avait une pensée qui était construite comme une branche d'arbre, arborescente. Il ne voulait rien rater. Il voulait aller jusque dans les plus légères petites brindilles, tout à fait à la fin de la branche, en fait, revenir en arrière.
Je suis très proustien dans mes questions, Daniel Morin. Donc,
vous êtes tellement proustien.
Oui, c'est des parenthèses, rater. Et donc, il a inventé cette langue qui correspond exactement à sa pensée. Et ça, il y a très très peu de gens qui savent faire ça. Céline disait, il y a deux ou trois inventeurs de style par siècle, dans lesquels il se comptait, évidemment. à juste titre. Et il pensait à Proust. C'est que Proust a vraiment, véritablement inventé cette langue. Et pourquoi a-t-il inventé cette langue parce qu'il avait besoin, pour dire sa pensée, d'une phrase qui avait cette longueur-là. Et il voulait tout mettre dans son livre. Donc ce qui fait qu'à la fois on a une phrase longue et on a un livre long. Et on a un livre total. C'est-à-dire que dans Proust, c'est pour ça qu'une fois que vous l'avez lu, vous pouvez plus vous en tirer. Vous ne pouvez plus vous en sortir. C'est qu'il y a absolument tout. Il y a la politique, il y a l'histoire, il y a le sexe, il y a l'amour, il y a la jalousie, il y a la beauté, la mémoire, le temps. Tout y est. Et tout y est analysé avec cette précision de quelqu'un qui n'a rien voulu laisser passer. Alors, par exemple, prenons un petit exemple, c'est même pas dans la recherche, c'est dans une lettre, il dit à Paul Morand, qui était un grand écrivain de l'époque, qui part pour l'Italie, parce qu'il est diplomate, il lui dit « Je suis triste, pas seulement parce que vous partez, mais parce que je vais vous oublier. » Alors, il prévoit maintenant que plus tard, il va certainement oublier son ami, et comme c'est son ami à ce moment-là, il en est déjà triste. Alors, avec une phrase comme ça, vous vous dites « Ce type-là a trouvé quelque chose avec le temps, c'est pour ça que ça s'appelle la recherche du temps perdu. Mmh. Il a trouvé quelque chose qui est vraiment unique. Alors, si vous prenez un exemple dans la recherche de cette explication, comment il vous fait comprendre ce que c'est que le temps, vous pensez à la mort de sa grand-mère. Sa grand-mère, c'est en fait sa mère, hein. Mais enfin, dans le livre, c'est sa grand-mère. La première fois, il est aux Champs-Élysées avec elle et elle a une attaque. Il dit, elle n'est pas encore morte, mais j'étais déjà seul. Bon, donc il est décalé déjà. Deuxième fois, la grand-mère meurt vraiment. Il ne ressent rien. Sa grand-mère est l'être qu'il aime le plus au monde, ouais, et il ne ressent rien. Et puis un an plus tard, il est à Balbec, au bord de la mer, et il fait un geste qui lui rappelle sa grand-mère, et subitement, il comprend qu'il n'a plus sa grand-mère. Et alors là, il est écrasé par le chagrin. Et donc, Proust passe son temps à ça. Vous expliquez qu'on est tout le temps décalé, qu'on n'est jamais en phase avec les choses, qu'on n'est pas qu'on ne ressent pas la chose qu'on doit ressentir au moment où il est prévu normalement qu'on la ressente. Et qu'on est décalé, qu'on la prévoit, qu'on est en retard.
Le rapport au temps, beaucoup d'auteurs l'ont eu. Lamartine aussi.
Donc c'est le grand livre. Oui, bien sûr.
C'est pas la première fois que.
Non, mais bien sûr. Bien sûr.
Parce que lui, il y a ce décalage.
Mais tout le monde en a parlé. Ouais. Bergson en parlait. Donc, voilà. Mais c'est inclus dans une espèce de panorama de l'être humain, si on peut dire, enfin, d'une espèce de planche anatomique de l'être humain, qui fait que, effectivement, au bout d'un certain temps, quand on est, enfin, une fois qu'on est entré dedans et qu'on y est resté, parce qu'on peut très bien en sortir, on a le droit, puis parfois on s'ennuie, bon, c'est comme ça. C'est comme une sorte d'anticorps qui circule dans le corps dans les veines jusqu'à la fin.
On est d'accord, vous m'avez fait une réponse proustienne, hein, qui a duré à peu près 4 minutes pour une question qui, elle, était légèrement plus courte. Pardon. Mais je voudrais juste, Jacques, qu'on ait le temps aussi d'évoquer ceux qui ont été directement influencés dans leur œuvre par Proust. Quels sont les proustiens mythiques?
Ah, mais il n'y en a pas. Parce que Proust, il est à la fin d'une période. Proust, il termine, il clôt le roman. Le roman classique. Le roman de Stendhal, de Balzac. Il ferme cette période-là. Après, il faut faire autre chose. Ceux qui ont voulu faire pareil sont pas intéressants. Je veux dire, c'est pour ça que Céline, qui arrive juste à la génération suivante, qui avait la plus grande admiration pour Proust, et qui est d'ailleurs son exact contraire, il est tellement proche et lointain en même temps, enfin c'est son double. Céline fait exploser la langue et invente autre chose. Et à ce moment-là, c'est Céline qui va avoir des continuateurs. Mais Proust, il n'en a plus.
Est-ce que Proust est l'auteur le plus étudié en France ? Université,
je pense que c'est l'auteur qui a le plus de thèses consacrées, en tout cas à l'université, oui.
D'accord.
Il y en a partout, dans le monde entier. Au Japon, ils en sont à la troisième traduction d'un amour de Swan. C'est universel. Je pense que.
Et donc, même aujourd'hui, dans la littérature française, vous ne trouvez pas de Proustien ou de fils d'eux?
Oui, il y a des épigognes, il y a des mauvais. Non, mais il faut faire autre chose, c'est vrai. À partir du moment où vous ne pouvez pas faire mieux, il faut faire autre chose. Céline l'a compris.
Vous prenez pas ça pour un hommage, vous prenez ça pour une pâle copie.
Je pense ça pour une pathologie. Non, mais je veux dire que je comprends très bien qu'à partir du moment où on s'est plongé là-dedans, on a énormément de mal à faire autrement. Parce que c'est contagieux, parce que on se dit, ben voilà, il a réussi ça, il a réussi à expliquer l'histoire de la Madeleine, qui était une biscotte à certains, je rectifie, hein, c'est une biscotte à certains endroits, une Madeleine, un morceau de gâteau, etc. Il se trompe, c'est tout, il ne change pas de, bon.
Non, et puis peu importe le.
Oui, il a réussi à expliquer cette chose extraordinaire
c'est le goût, c'est l'odeur,
oui,
c'est
de la mémoire involontaire. Voilà, alors, on se dit, ben s'il a réussi comme ça à expliquer la mémoire involontaire, ben je vais faire pareil, forcément.
Mais il a réussi à en faire une expression, puis, c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que même le nombre de personnes qui peuvent parler d'une Madeleine, sans forcément rajouter Madeleine de Proust d'ailleurs, mais en l'évoquant à la Proust, sans avoir lu À la recherche du temps perdu, c'est peut-être le...
Oui, ça, tous les grands écrivains, c'est comme Harpagon, et oui, ils créent des types. D'ailleurs, c'est ça qui est un petit peu embêtant quand on sort de la recherche, c'est que on relie tous les gens qu'on rencontre au personnage de la recherche, parce qu'ils y sont tous. Tous les types humains y sont. On dit, tiens, voilà une Madame Verdurin. Tiens, voilà un Monsieur Charlus. Tiens, voilà.
Un Tartuffe.
Oui, en fait, Tartuffe, c'est quelqu'un d'autre.
Oui, mais enfin, c'est devenu un nom commun.
Exactement.
C'est
exactement ça.
Merci beaucoup, en tout cas, Jacques Drillon, d'être venu apporter votre musique à l'histoire de Proust. Tanguy Pastureau, bonjour.
Bonjour, Nagui.
Vous allez nous parler ce midi du râle du cuvier.
Oui, c'est un petit oiseau des Seychelles qui, toute l'année, finit les mojitos des touristes et qui, du coup, à 2 grammes, se prend des palmiers. Il a la vie de Keith Richards des Stones. Mais c'est un mystère, cet oiseau, puisqu'il avait disparu il y a 136 000 ans avant de réapparaître. Hein, Yann Brossa a fait la même chose récemment avec le communisme.
Ça sera après les infos. La bande originale avec Leïla Kadomandani, Daniel Morin,
bonjour,
Tom Villard, Alessio Rossignol, Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Et notre invité, Daniel Kikouli.
Bravo.
Nous parlons aujourd'hui du centenaire et du premier printemps. Centenaire pour le prix Goncourt de Proust, premier printemps organisé en Eure-et-Loire à Hilaire-Combray. Je le rappelle encore une fois, mélange d'une véritable ville et d'une ville imaginaire. Ah c'est oui. C'est la fiction qui vient transformer la réalité.
Oui, puis il y a des véritables guides tours Proust. On peut aller voir, on peut aller à Paris, on peut aller là-bas. Et la chambre à Cabourg, la chambre 414 du Grand Hôtel. De Cabourg, ouais. Est régulièrement visité par des gars qui font des pieds et des mains, qui sont prêts à...
Elle est louée ou elle devient une espèce de musée maintenant?
Non, c'est une espèce de musée, non, c'est une espèce de musée extraordinairement décevant, quoi. C'est une petite chose, c'est très étriqué, c'est une pièce de rien du tout, mais Proust travaillait dans des endroits sombres. Boulevard Haussmann, c'est vraiment une pièce dont les quatre murs sont couverts de liège pour pas qu'il y ait la moindre poussière, parce que ça provoquait des crises terribles chez lui.
Il était asthmatique, oui. Spectacles qui ont commencé depuis le week-end dernier, c'était Guillaume Gallienne qui a été le premier à faire ses lectures, des conférences, des lectures, je l'ai dit, des entretiens. Et donc vous, Daniel Piccoli, ça sera ce dimanche, 15h et 16h. Comment j'ai découvert Proust, lecture extrait en avant-première de votre prochain livre qui est à la fois un hommage à Proust, à la fois une autobiographie et à la fois un clin d'œil aussi à votre professeur de français.
Oui, et puis un hommage à la banlieue, parce que c'est assez extraordinaire. Tout à l'heure, on parlait de Madame Verdurin. Moi, j'avais une chance terrible, c'est que la gardienne de ma cité, c'était Madame Verdurin. Et elle se comportait exactement comme elle. C'est-à-dire, à partir du moment où on lit Proust et qu'on a lu Proust, on a effectivement une tendance à avoir des Proust partout, des personnages de Proust partout, parce que c'est une comédie humaine d'aujourd'hui.
Voici Tanguy Pastureau. Tanguy, il y a enfin une bonne nouvelle en matière d'environnement.
Oui, youpi, c'est la fête dans le cul, Nicolas Hulot. La catastrophe climatique, c'est réglé. J'ai retiré l'annonce pour la vente de ma Punto Diesel sur le bon coin, je la garde. Certes, 1 million d'espèces sont en voie d'extinction dans le monde, mais en a-t-on vraiment besoin? À titre personnel, si j'ai ma belle-sœur qui fait très bien le riz au lait, et vous, Nagui, qui me faites travailler, ça me suffit. Pour ce que m'a apporté le tigre du Bengale, juste l'envie de m'acheter un slip imprimé d'après sa fourrure, pour espérer sur la Côte d'Azur tomber une cougar friquée qui m'entretient, merci. D'autant que la nature se relève de tout. Si plus personne ne prend la 13, parce que les gens seront rendus compte qu'à Deauville, il n'y a rien à voir, à part 3 noms d'acteurs surcotés sur des cabines de plage pourries, dans 15 ans, il y a des arbres sur les 4 voies. Dans le bureau de Daniel Morin, qu'il n'a pas nettoyé depuis juin 2003, il faut le savoir, il y a des lianes qui poussent. Un bébé toucan y est né l'an dernier. Parce que la nature, quoi qu'on lui fasse, repart. Le concept de résilience de Boris Cyrulnik a surtout été adopté par des herbes. Ainsi, des chercheurs britanniques, ces gens qui trinquent avec des éprouvettes à chaque naissance de Royal Baby, viennent de prouver que le râle de cuvier, un oiseau des Seychelles qui là existe, avait disparu il y a 136 000 ans, comme le PS aujourd'hui, mais avec des plumes. Un Raphaël Glucksmann au Lido. Alors l'histoire est incroyable. Le râle de cuvier à la préhistoire, alors que Madame Juppé met le petit Alain au monde, qui déjà fait la gueule, à tel point que pour ne pas le voir, elle essaye de le remettre dans son ventre en lui criant « Tu sortiras quand tu auras fini de bouder ». À la préhistoire, le râle de cuvier, grand oiseau très fin, très beau, qui pourrait produire au moins 30 nuggets si KFC sortait de son obsession morbide pour le poulet. Eh bien, le RAL atterrit sur les îles Aldabra dans les Seychelles. Alors, peu à peu, il perd sa capacité à voler, puisque sur les îles Aldabra, il n'a pas de prédateurs. Comme chez nous, dans le restaurant du Georges V, hein, on sait qu'on va pas se faire piquer sa montre. Or, la nature s'adapte. Pas de prédateurs, hop, la bête n'a plus besoin de fuir. Donc, ses ailes ne lui servent plus, comme pour un avion qui ferait la ligne Limoges-Limoges. Hein, nous, ça fait pareil. Du temps des Visigoths, les types se battaient, ils avaient des biceps et des petits culs bombés. Un résultat, une fois sur deux, les Visigoths jetaient leur peau de bête en disant « Mais qu'est-ce qui nous arrive ? Je suis chaud, steak de sanglier !» Hein, ils pouvaient pas dire purée, on n'avait pas encore découvert la pomme de terre. Mais en 2019, nous n'avons plus de prédateurs, à part le bus de ville quand on traverse au rouge. Nos corps se sont donc adaptés. On est flasques, un mou liquide. La dernière fois que j'ai bu un verre en terrasse, la dame m'a débarrassé moi parce qu'elle m'a confondu avec ma bière. Mais s'il y a une guerre, on n'aura que deux mecs à envoyer au front. Booba et Caris, dont le cerveau est resté bloqué en 800. Ils soulèvent de la fonte en attendant les Vikings. Mais même là, on est foutu parce qu'ils se battront entre eux, ces deux losers. Bref, revenons au RAL de Cuvier. Il y a 136 000 ans, Nagui, ils ne volent plus.
Oui, alors le problème, c'est que la montée des eaux va faire disparaître les îles Aldabra sous les océans.
Oui, et le RAL de Cuvier ne sait pas nager. Hein, il n'a pas appris. On parle d'une époque où il n'y avait pas Philippe Lucas pour vous pourrir si vous ne faites pas vos 60 longueurs. Donc, il disparaît. Plus de RAL de Cuvier. Alors, c'est la partie triste de la chronique. Hein. Auditeur, tu peux pleurer. Hein. Tu n'as pas à avoir honte de ta sensibilité. Tu es ce que tu veux être, comme dirait Bilal Hassani à l'Eurovision. Hein, regarde, moi, je suis sensible. Hein, ben, je suis devenu le king des médias. Hein, Laurence Bloch, directrice d'Inter, me recouvre d'argent. Ok, deux pièces d'un centime, mais ça manque juste à la cheville. Mais bon, ça va décoller. Hein. Dans deux ans, je suis flippette sur flippe. Hein. Enfin, ça va, annoncer un truc de rumba togolaise avec une voix de chaudasse, je peux le faire. Enfin. Bref, le RAL de Cuvier a disparu. Sauf que plusieurs milliers d'années plus tard, les îles Aldabra sont réapparues, elles sont sorties de l'eau. Le RAL est revenu en volant et à nouveau a perdu sa capacité de voler parce qu'il n'a pas de prédateur. Et les chercheurs appellent ça l'évolution répétitive. C'est-à-dire que si demain Christina Cordula, le prédateur de Michel Houellebecq, qu'elle menace d'habiller d'un jean skinny et d'un petit chèche, disparaît, Michel Houellebecq perdra l'utilité de ses jambes qui lui servent à s'enfuir quand il passe devant le siège d'M6 et mourra donc le jour de l'apocalypse en se prenant la météorite sur la gueule. Mais dans 1000 ans arrivera un nouveau Houellebecq, hein, c'est-à-dire que la faune parfois s'auto-régénère. Alors, comment les chercheurs en sont-ils arrivés à cette conclusion? Eh bien, parce que les ossements trouvés datent d'avant et d'après la submersion de l'île. Ils sont forts. Enfin, nous, avec des os, on ne voit rien. Hein, chez Hippopotamus, on les laisse dans l'assiette et on commande un café gourmand. Mais les chercheurs sont moins cons que nous. Hein, il faut dire qu'on les paye pour ça. Donc, aujourd'hui, le RAL de Cuvier va bien. Mais attention, parce que les Seychelles sont à nouveau menacées par la montée des eaux. Et c'est là qu'on se dit que le RAL de Cuvier n'est pas fin. Trois fois, il s'installe. Trois fois, il fait submerger. Enfin, aucun retour d'expérience hein, chez les râles de Cuvier. Il n'y a pas un papy râle qui dit « Taillez-vous les jeunes, il n'y a pas d'avenir ici. Quand vous cherchez un emploi, vous n'allez pas à Roubaix. Bah là, c'est pareil, nos îles pourries, cassez-vous, bordel. Hein, » Donc, il faut l'imaginer, la très en colère, hein, il secoue ses plumes, tout ça. Hein, non, mais à chaque fois, il revient, à chaque fois, il perd l'usage de ses ailes. Mais qu'on leur foute des prédateurs. On prend les chasseurs français, il n'y a plus que Macron qui les aime. Ils se mettent à dégommer les râles de Cuvier. En 7 jours, les bestioles réapprennent à voler. Et nous, on en sera débarrassé des chasseurs. Un problème, une solution.
Merci Tanguy Passion.
La bulle originale, Nagui, sur France Inter.
Reparlons donc de ce printemps proustien et de votre roman. D'ailleurs, vous le travaillez depuis combien de temps ce roman ?
Juste après le Goncourt de cette année. Moi, j'étais sur les listes du Goncourt, ce qui donne la possibilité de rencontrer les étudiants, des lycéens, pour le prix Goncourt des lycéens. Et là, j'ai découvert ce qui est pas une découverte pour moi, la passion que pouvaient avoir des jeunes pour la littérature d'aujourd'hui. C'est-à-dire la façon passionnée dont ils en discutent, qu'ils peuvent s'engueuler aujourd'hui sur les livres. Il faut simplement qu'ils aient la possibilité d'avoir à disposition. Et ça, c'est une opération qui est absolument formidable. Et on se retrouve devant 200, 300 étudiants qui ont lu votre livre et qui vous désinguent.
Vous dites qu'il faut qu'ils aient à disposition quoi ? L'accès à la lecture,
Oui, parce qu'un grand format, c'est 20 euros aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au moment de la rentrée littéraire, ils ne peuvent pas lire les nouveautés. Ils peuvent lire des livres de poche, comme on a tous fait en les achetant même d'occasion. Mais aujourd'hui, le prix du livre est un frein, en tout cas pour eux.
Voilà. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé entre nous il y a une vingtaine d'années ou pas ?
Ça sort les dossiers.
Ouais, là, ça, non.
Non, non, c'est un rapport, c'est un rapport justement avec ce que vous racontez. On a fait une émission ensemble. C'était sur Canal à l'époque, dans Nu par ailleurs, et où je disais le plus grand bien que de votre livre. Et le lendemain, vous m'appelez en disant il y a un jeune homme qui s'est fait arrêter dans une grande surface pour avoir volé mon livre. Et je voulais te remercier parce qu'on lui a donné envie de le lire. Il n'avait pas les moyens de l'acheter. Ouais. Il est allé le voler. Ouais. Et donc, il en avait tellement envie qu'il l'a volé. Ouais. Et donc, on a réussi l'émission, entre guillemets, puisqu'on a donné envie à quelqu'un de lire un livre, alors qu'il n'en avait pas forcément les moyens.
Vous avez encouragé la rapide.
Non. L'émission est réussie quand le flic est au courant et qu'il le laisse ressortir. Ça, c'est mieux quand même. Et c'est ce qui était le cas. Et c'est vrai que moi, j'ai le problème actuel, et ce dont on parle, c'est l'accès à la littérature. Et on comprend pourquoi des moyens moins chers, plus premier, le numérique, sont des moyens. Mais même sur le numérique, on a mis des barrières. C'est-à-dire le prix unique du livre numérique est trop élevé.
Le premier problème, c'est qu'il faut avoir la base pour le lire, c'est-à-dire la tablette, l'ordinateur ou le smart.
Mais même la base de la base, le goût pour. Moi, j'écris des histoires pour les gosses. J'écris des livres pour la jeunesse comme pour les adultes. C'est-à-dire que le goût de lire s'entretient. C'est-à-dire, c'est un petit peu, on est comme nous avec notre corps, si on fait plus d'abdominaux pendant quelques temps, on sent bien que ça va pas. Et la lecture, si on l'abandonne, c'est vrai. Si on l'abandonne, ou même si on vous a pas donné envie. Moi, c'est pour ça que je suis toujours passionné de voir des parents qui le soir lisent à leur gosse. Et voilà, c'est un truc qu'il faut entretenir parce que là, on est en train de payer cher le fait que c'est pas été entretenu.
Daniel Piccoli, notre invité, nous parlons du printemps proustien et à propos d'abdos abandonnés. Voici Daniel Morin.
C'est une transition.
C'est une ordure.
Non, j'ai dit ça. C'est une réalité.
J'ai dit ça fort. Aujourd'hui, on va parler. Ah bah tiens, Nagui, vous tombez bien. On va parler arnaque. Oui. Arnaque et arnaqueur. On commence avec Jeff Koons, le plasticien américain qui fait des sculptures en acier qui représentent des animaux gonflables. Jeff Koons, vous savez, c'est le gars qui a fait un homard présenté au château de Versailles en homard géant. C'est aussi le gars qui avait offert à la mairie de Paris une sculpture géante représentant un bouquet de tulipes gonflables pour rendre hommage aux victimes du Bataclan. Plutôt sympa comme démarche. Peu après, l'artiste a précisé qu'il offrait le dessin de la sculpture, mais que pour la sculpture elle-même, c'était 3,5 millions d'euros. Eh bien, une sculpture représentant un lapin en acier haut de 1 mètre a été adjugée 81 millions d'euros. Pour atteindre une telle somme, tenez-vous bien, Nagui doit travailler au moins 3 ans. C'est de la folie furieuse, une somme de dingue. De la folie quand tu sais que dans les magasins Piu Piu Merveille, le lapin Miffy Safari, lui aussi haut de 1 mètre, 129 euros.
Ah, punaise.
Soit près de 628 000 fois moins que l'horreur signée Jeff Koons. Il doit avoir bien les boules, l'acheteur du lapin de Koons, quand il va écouter ma chronique et qu'il va savoir pour Miffy Safari. Enfin, bref. Autre arnaque, ou plutôt honnêteté foudroyante. C'est arrivé avant-hier et c'est pour moi l'acte de transparence le plus incroyable auquel on ait assisté dans toute l'histoire du banditisme. Avant-hier, au troisième jour de procès des Balkany pour fraude fiscale, blanchiment, mon meilleur ami, et corruption, faut pas oublier, un procès où des gens sont venus témoigner pour dire qu'ils n'avaient jamais vu de leur vie autant de liasses de billets de 500 euros sur une seule et même personne. Eh ben, en plein milieu de l'audience, le téléphone de Patrick Balkany sonne, et sa sonnerie, c'est ça. Véridique, la musique des tontons flingueurs. Non, mais ça va au-delà de tout, c'est vrai. Le gars n'a peur de rien, il assume tout. Vous avez raison, Nagui, c'est mon ami, même au-delà, c'est mon dieu, c'est mon exemple. Il a en permanence dans ses poches l'équivalent du PIB du Luxembourg en bifton. Quand il te serre la main, t'as l'impression qu'il va te piquer ta montre. Quand il choisit une sonnerie, c'est les tontons flingueurs. Tu peux pas me dire que le gars, il annonce pas la couleur. L'honnêteté des voyous, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, hein, Nagui. Allez. Bon week-end.
Respect.
Quand même.
Merci de vous voir. Une bande originale avec Nagui.
Je suis allé voir le lapin. Écoute, bon, ça coûte cher, oui.
Tu vois ?
Mais c'est pas très radiophonique.
Oh, ça les vaut. Non, si, ça les vaut. Non, j'avais pas pensé à s'arnaquer.
Il a pas fait un chien déjà aussi ou
si,
pas
le
trop...
chien comme un ballon. Comme un ballon.
Saucisse.
Il fait tout.
Il y a des photos aussi.
Mes photos, elles sont plus hardes.
Photos avec.
Vous comprenez pas
les moyens de comprendre, Nagui.
C'est ça. Pardon ?
On n'a pas les moyens de comprendre, Nagui.
C'est pas une question de moyens. Tu regardes la photo, tu peux. Ouais, cool, tu aimes ou tu aimes pas. Justement, il y a des expositions, là, c'est autre chose, qui auront, et des spectacles qui auront lieu en Eure-et-Loir, qui ont déjà commencé, je le rappelle. Il y a un duo Georges Sand, André Pérègne, qui joueront, pardon, la sonate Vinteuil. Patrick Bordarvor et Caroline Glory dialogue en lecture et en musique autour de l'amour. Spectacle qui aura lieu demain, samedi, à 16h30. Ça se passe au Musée des Beaux-Arts, à la Chapelle, c'est à Chartres, puisque ça se passe un peu partout, hein, en Eure-et-Loir. Hein.
Voilà. Eure-et-Loir.
Eure-et-Loir, pardon. Il y a l'Orchestre Symphonique Région Centre Val-de-Loire Tours, accompagné du pianiste Cyril Huvé aussi, qui jouera. Et puis donc, ces lectures, alors soit des lectures proustiennes, soit vous, votre propre roman. Vous n'avez pas eu envie de lire, d'ailleurs, si vous deviez choisir un passage de Proust à lire, lequel?
Je choisirais certainement un passage chez les Verdurin, parce que c'est drôle ça. La mère Verdurin, elle est drôle, pas seulement quand elle se coince la mâchoire quand elle rit, mais la prétention la prétention et la fatuité de ses invités. Voilà, c'est ça aussi, c'est ces passages-là qui me rassurent. Je dirais à tout chacun, on dit tout à l'heure, on parle de la phrase longue, commencez par un amour de Swann, vous allez avoir la Odette, qui est une cocotte, et elle vous décrit son intérieur, c'est la maison à Titi, c'est pareil, quoi, sauf que c'est la maison à Titi de snob, de gens qui se rendent même pas compte qu'ils n'ont pas de goût.
Jacques Drillon, tout à l'heure, disait qu'il ne fallait pas imiter, copier ou chercher le style.
Ah oui, non, mais ça c'est de toute façon, en tout état de cause, pour n'importe quel auteur. Moi, tout à l'heure, quand on a parlé de Proust et de Salan, moi, quand j'étais au collège et après au lycée, dans mon sac, j'avais ma tenue de sport, Proust et Santonio. Parce qu'il me produisait, Santonio me produisait une énergie du même type. C'est-à-dire que c'est un gars qui te dit, tu apprends la langue, tu l'apprends et t'en fais ce que tu veux, si t'en feras quelque chose ou pas. Mais c'est à toi. Et moi, quand j'étais prof, si je disais à mes élèves, c'est le seul, parce que c'était des élèves de banlieue, c'est votre seul trésor. Tu vas hériter, toi. Tu vas avoir un château, tu vas avoir une rente. Non, le seul pouvoir que t'as, le seul trésor que t'as, et tu l'as dans tes mains, c'est la langue. Possède la langue, travaille la langue, et tu pourras te balader partout. Voilà, c'est tout. Et Proust te dit ça aussi. Il te dit que même les sensations...
C'est l'éducation qui forge la vie. C'est d'ailleurs ce que font beaucoup d'associations en Afrique, en Asie, c'est de dire, il faut que les enfants puissent aller, et les filles. Oui. Il y a une association qui s'appelle Toutes à l'école, à laquelle je pense. Il faut que les filles aient accès à l'éducation pour pouvoir se sortir de...
Bien sûr. Mais ça, c'est quelque chose...
La situation à laquelle elles sont.
Qui est aujourd'hui tellement évident, mais qui est très facile à faire passer, qu'à partir de là, qui s'exprime. Moi, je fais, par exemple, à Nancy, je fais des battles entre des collégiens qui viennent argumenter, présenter un bouquin. Le truc qui m'a le plus sidéré, c'est de voir les parents dans la salle qui n'imaginaient même pas que leur gosse, leur gamin, qui considérait être enfermé dans la chambre devant ses tablettes, était capable de parler d'un bouquin dont ils connaissaient même pas le nom, même pas l'auteur. Et nous-mêmes, parce que quand on dit que les jeunes ne lisent pas, c'est qu'on sait même pas ce qu'ils lisent, on connaît même pas. Vous avez des files d'attente dans les salons du livre derrière ou devant une personne que vous ne connaissez même pas, mais qui vend 40, 50, 60 ou 80 000 exemplaires. Donc aujourd'hui, on est complètement déconnecté.
Et les adultes ne lisent pas forcément beaucoup plus, d'ailleurs.
Non, mais...
Important de pas séparer les générations non plus.
Oui,
on a toujours la sensation que ce sont les jeunes qui sont complètement ignares, alors qu'en effet,
c'est la relève.
Ils lisent d'autres choses.
Est-ce que tout livre est bon à lire?
Ah oui, oui. Alors, moi, je suis...
Vous n'avez pas de jugement sur...
Ah non. Puis en plus, moi, je suis un de ces gosses qui avait... On n'avait pas les sous pour acheter des livres. Moi, je lisais beaucoup de magazines. J'ai lu Match comme un fou.
Je parlais des livres.
Non. C'est-à-dire que ce qui est important, parce que quelqu'un va vous faire le coup, vous êtes dans un dîner en ville, vous recevez des gens, ils vont vous raconter comment ils ont lu Proust, que ça a fait, Flaubert et tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le métabolisme. C'est-à-dire que c'est pas ce que tu manges qui m'intéresse. C'est pas ce que tu lis, c'est ce que t'en fais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le bonhomme que j'ai devant moi, qu'il me fasse des citations de Proust, de Flaubert, de Balzac et tout ça. J'ai dit, ouais, c'est un jongleur, ok.
La flambe, ouais,
voilà, mais c'est peut-être un petit con, c'est tout. Ouais. Voilà.
Donc,
c'est
ça. Ouais. Le 19 mai.
Le 19 mai, c'est-à-dire dimanche. Dimanche à ça c'est fait. Dimanche à 15h à la collégiale Saint-André de Chartres, Daniel Piccoli donc vous lira en avant-première les premières feuilles de son prochain livre apparaît dans un récit autobiographique où vous parlez de votre adolescence, de votre découverte presque par accident ou par défi ou par séduction de Proust qui a été une révélation. On a eu la chance de lire ce premier chapitre. Et ensuite, docteur, qu'est-ce qui se passe?
Ensuite, ce qui se passe, c'est que j'ai un copain, il s'appelle Bala, c'est un Proust, un proustophobe. C'est-à-dire que ce gars-là, il lit tout sur Proust pour pouvoir dézinguer Proust, parce qu'il trouve que les gens qui lisent
tout,
Proust...
Tout votre roman est autour de Proust.
Oui, il est autour d'Albertine. C'est-à-dire que mon copain est certain que le fait d'avoir rencontré une Albertine, je suis en train de revivre l'histoire qu'a écrit Proust 50 ans plus tôt. On est sûr de ça. Donc,
il fait un transfert.
Albertine, elle disparaît. Oui, elle disparaît parce que quand ses parents ont vu qu'elle se rapprochait d'un garçon qui avait la peau café au lait, comme vous dites, ils l'ont éjecté dans un institut privé. Donc, c'est ce qu'il nous reste à faire. Albertine a disparu, c'est un des titres de Proust. C'est de la retrouver, de l'enlever, parce qu'il y a complètement un plan d'enlèvement d'Albertine. C'est-à-dire que les mômes se projettent dans une réalité à partir d'une fiction. Ils sont sûrs qu'ils ont déjà vécu l'histoire, donc autant la vivre pour de vrai. Voilà, ça va leur faire quelques conneries, bien sûr.
Vous êtes tous les dimanches à 11h45 sur France O dans une émission qui s'appelle Page 19 parce que
c'est le canal 19 France O, personne ne sait où c'est France O, d'accord. Alors je vous dis, c'est au fond du couloir à droite, c'est
TNT 19,
voilà, page, c'est canal 19. Et comme je sais pas pourquoi dans le paysage audiovisuel on le sait, c'est très important le numéro de la chaîne.
Mais donc vous jouez, oui, c'est d'autant plus important qu'il y a des postes où dès l'instant où on allume ça se met sur la une,
bien sûr,
que l'on veuille ou pas,
oui, statutairement.
Voilà. Il y en a d'autres où ça se rallume sur la télé, la chaîne sur laquelle on s'était arrêté. Ça dépend des produits. Vous jouez non seulement le jeu de mots de la page 19 sur le canal de François, mais vous lisez vraiment le roman par
la
page 19.
Absolument. Je commence.
C'est le point de départ de l'interview.
Je fais une intervention. Je prends un extrait de la page 19. Et depuis que je fais, ça fait plusieurs années que je fais, c'est jamais on est passé à travers. L'extrait que je choisis, il y a toujours quelque chose qui parle du roman. Il y a toujours un élément qui rend compte du roman, et des fois c'est sidérant. Les trois prochains que je vais recevoir, ça fonctionne de la même façon.
Le mois dernier, vous avez publié une nouvelle série jeunesse, Titou Bleu, illustré par Frédéric Pillot. Titou Bleu ne veut pas se coucher, Titou Bleu veut être chercheur Titou Bleu veut un pot à roulette, Titou Bleu aime sa maman, et rien que d'en parler, ça vous barre le visage d'un sourire.
C'est un plaisir terrible de faire une série pour enfants, pour les tout-petits. D'abord, c'est extrêmement difficile, parce que vous devez vraiment être extraordinairement concis, comme vous l'avez pu remarquer, c'est un peu proliférant.
C'est le choix des mots qui est difficile.
Oui, mais d'essayer de restituer. Et puis aussi, le thème du pot, c'est un peu un thème classique. Moi, je me dis, quand j'étais gosse, que le pot, ça me faisait rêver un pot à roulettes, un pot avec des voiles, un pot. Voilà, j'essaie de mettre de la poésie dans tout ça.
Poésie.
J'en ai eu qu'un dans tout le
monde. J'ai eu d'autres jeux de mots, je les ai ratés.
Oui.
Le premier printemps proustien se termine ce 19 mai. Allez-y et profitez-en. Daniel Morin, des excuses à présenter.
Oh, bien entendu, et désolé déjà pour notre invité, Daniel Picouli, qui a revécu ce matin son passé de prof en retrouvant une bande de cancres autour de cette table. Alors, on a appris que Nagui avait eu du mal à finir Proust. En même temps, il n'a jamais commencé l'école, c'est un peu normal. Désolé pour tous les Proustiens qui nous écoutent, et notamment notre spécialiste, Jacques Drillon, qui ont été étonnés, choqués, violentés, parfois humiliés quand ils ont découvert un nouveau membre de leur tribu proustienne, à savoir Nagui Proust. Tiens, c'est vrai que ça pique un peu. Désolé enfin pour nos auditrices qui ont été étonnées, humiliées d'entendre la compétition de macho autour de la table entre Nagui, Daniel Picouli et ses 7 cm. Et si on ajoute la perfidie d'Alexis Laurent Signol, l'arrogance de Tom Villa ou le mépris de Tanguy Pastureau, notamment pour les chaudasses de FIP, je suis finalement le seul féministe autour de cette table. Je suis le seul. Ouais, tiens, d'ailleurs, dans Vous les femmes, ce dimanche, je recevrai Isabelle Autissier, Charline Van Honecker. Voilà, seul féministe.
Yvan Calberac et Benoît Poulvord. Yvan Calberac récemment primé au Molière pour sa pièce Dégustation, et Benoît Poulvord seront là pour Venise n'est pas en Italie, le nouveau film tiré du roman d'ailleurs éponyme d'Yvan Calberac. Ça sera lundi. Merci beaucoup Daniel Piccoli, et aussi. Bon printemps proustien.
C'était Brenda Lee, là.
Oui, absolument.
C'était une idole de quand j'étais petit, parce que c'était une fille qui avait mon âge, qui était déjà une star, comme l'a été Nono Letta quand elle a gagné l'Eurovision.
Mais on le savait, on l'a pas mis pour rien, c'était pour vous, Daniel.
Ouais, merci, et on fait ça depuis 5 ans. Merci beaucoup.
Merci les amis. À lundi.